France Inter,
franceinter.com.
Mais avant toute chose, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce magazine de nature et d'environnement, c'est Où de mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de consommer en rond, avec aujourd'hui Claudine Lapersonne et Dimitri Gronoff à la technique, et assisté de Sophie Le Doré, de Jean-Christophe Pinaza, mon ami d'Annecy, c'est Maïté Adam qui réalise cette émission. Et vous le savez, ça débute généralement par une petite humeur, une humeur en forme de point d'interrogation. Parce que le Père Noël qui nous offre 1000 euros pour envoyer nos voitures de plus de 10 ans à la casse et des conducteurs de 12 ans en prison, eh bien on n'est pas tous convaincus en fait du bilan environnemental de l'opération. Alors pour vous qui êtes en panne d'idées de cadeaux de Noël, chers amis auditeurs, j'ai feuilleté le catalogue de chez Areva. Alors côté prix, attention, parce qu'il faut savoir que dans l'industrie nucléaire, les soldes d'hiver, on les fait à l'envers. Oui, cette semaine par exemple, on nous annonce plus 20% sur l'EPR, 4 milliards d'euros au bas mot, c'est sans doute pas fini. Et à ce prix-là, l'EPR, c'est pas forcément une bonne affaire, les clients risquent de se faire un peu plus rares, voire l'Afrique du Sud qui se retire du jeu. Alors une autre idée, tenez, pour vous qui n'avez pas froid aux yeux, le cadeau branché cette année, c'est la mini centrale nucléaire clé en main à installer soi-même au fond du jardin. Après la voiture pour tous à 2 500 $ de nos amis indiens de chez Tata, voici le réacteur nucléaire à la portée de tous, Made in USA, 25 millions de dollars, livré par camion quand même, ah bah oui, ouais, bien. Idéal pour alimenter vos guirlandes électriques pendant les fêtes, petit, discret, votre réacteur nucléaire vous assurera l'indépendance énergétique pendant des années à vous et à vos voisins. Pour les plus fortunés, le nucléaire de poche est aussi la solution de la tranquillité pour alimenter toute l'année la télévision par satellite ou le bain à remous dans votre résidence de vacances en Iran ou en Corée du Nord. Bref, d'après les ingénieurs de Los Alamos au Nouveau-Mexique, l'énergie de demain, c'est la centrale nucléaire au fond du jardin. Cet hiver, avec ma centrale nucléaire, froid, moi, mais non, jamais, le nucléaire est dans le pré, mais oui. Vous en aviez rêvé, chers amis auditeurs, et bien ce n'est pas Areva qui l'a fait, mais c'est tout comme. Je vous présente Hyperion, c'est vrai, hein. Hyperion, donc c'est une PME américaine tout à fait innovante, jugée plutôt. 3 usines flambant neuves aux États-Unis pour monter les réacteurs à la chaîne. 100 commandes dans les tuyaux déjà, première livraison en 2013, et pas moins de 4000 réacteurs nucléaires disséminés un peu partout dans le monde d'ici 15 ans. Donc du pain sur la planche pour les terroristes de l'ultra-gauche. Elle est pourtant très pratique, la centrale nucléaire au fond du jardin. Par exemple, vous pouvez en profiter pour cultiver votre potager. Et avec le nucléaire, voyez-vous, plus besoin d'OGM ni de pesticides. Les tomates et les carottes irradiées, c'est déjà fait. Alors vous me direz, quid des pommes de terre à 5 pattes et autres concombres en tire-bouchon? Ah voilà, pas de souci, parce que la Commission européenne vient justement d'autoriser la vente des légumes tordus. Pour finir, question d'auditeur, tenez, si je remplace ma vieille chaudière à mazout par une centrale nucléaire, est-ce que je la touche aussi, la prime de 1000 euros ? Alors au sommaire de cette émission, bien Jean-Marie Pelt dans quelques instants qui nous parlera d'Emmaüs, des portables et des grands saints, je vous verrai qu'il y a un rapport. Et puis le groupe Trio, je vous l'ai dit, deux de leurs membres avec nous, ceux qui ont chanté l'air de nos campagnes, nous accompagneront avec plein de surprises, vous verrez jusqu'à la fin de cette émission.
étourdie par l'air cinglant. La sève déborde, les branches s'allongent vers la lumière qui ne fait que passer. Il rêve de gazon vert et soyeux pour se rouler à perdre.
Françoise Breut avec un T à la fin, donc peut-être Françoise Breut qui interprète Les Jeunes Pousses, est en playlist donc sur France Inter. Jeune femme d'ailleurs qui a commencé en faisant des livres pour enfants, il faut le savoir aussi. Elle est dessinatrice, puis effectivement après elle s'est mise à chanter. Donc elle n'est pas dénuée de talent, loin de là. Donc le moment pour nous de retrouver Jean-Marie Pelt, bien sûr. Et alors Jean-Marie, écoutez d'abord cette voix.
Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise, c'est simplement toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
Jean-Marie, évidemment, comme beaucoup de Français, vous avez beaucoup de sympathie pour l'abbé Pierre.
L'abbé Pierre a eu une intuition géniale. Pour le coup, le mot génial est à sa place.
Oui,
il était député de Meurthe-et-Moselle. Ça ne lui plaisait pas. Il n'était pas fait pour ça. Moi, ce n'est pas le mien non plus. Donc voilà un point sur lequel nous sommes d'accord. Il a une petite maison à Neuilly-Plaisance, près de Paris. Son papa accueille des clochards. Il accueille un bagnard qui revient du bagne et qui trouve un autre avec sa femme. Le mec veut se suicider. Il le prend chez lui. Et puis, il a l'intuition qu'il va créer une communauté. Et alors, cette communauté, il faut qu'elle vive. Et il a cette deuxième intuition que si on les transformait, ces gars, en chiffonniers, c'est-à-dire s'il recyclait, voilà, des mots à la mode, qu'il n'a pas utilisés au départ parce que les mots n'existaient pas encore, eh bien, il pourrait vendre le produit de cette récupération et de ce recyclage et faire vivre ces petites communautés.
Et comme ça se faisait à peu près une cinquantaine d'années auparavant, parce que donc on parlait des batailles de chiffonniers, c'est parce que les chiffonniers savaient que leur chiffon avait de la valeur.
Absolument, absolument. Et la récupération des chiffons a été pour moi une des premières récupérations que l'on a effectivement pratiquées. C'est peut-être utile de rappeler que Sœur Emmanuelle au Caire a fait la même chose,
oui,
n'est-ce pas? Voilà. Alors, cette affaire a pris beaucoup d'envergure. Et Emmaüs est devenu actuellement un ensemble d'organismes, parce qu'il y a plusieurs sections dans Emmaüs pratiquement présentes dans le monde entier. Et ils sont passés des chiffons à tout le reste, ils sont passés aux meubles qu'ils réparent, ils ont des ateliers de brocante, les fameux bric-à-brac, Et puis, ils ont eu, suivant l'évolution de la société, l'idée de s'intéresser aux engins technologiques.
Donc à l'informatique et au portable.
À l'informatique et au portable. En ce qui concerne les portables, les Français achètent 19 millions de portables chaque année, puisque un portable vit en gros 18 mois. Bon, quand on va acheter un nouveau portable, l'ancien on met à la poubelle, d'habitude, ou on fout dans un tiroir, on ne sait plus où on l'a mis.
Non, ce qui est bien, c'est que ça peut être repris quand même par les revendeurs. Il y a obligation de cela.
Voilà.
On paye une écotaxe d'ailleurs.
Voilà pour tous les engins électroniques désormais. Et les Emmaüs ont eu l'idée de faire pour les portables, comme on fait toujours pour les piles, on les ramène à la FNAC. Et Emmaüs récupère des centaines de tonnes de portables dans le contrat qu'ils ont avec les FNAC. Ces portables sont ensuite repris en main, ils sont remis en état par des sociétés d'insertion. Notamment, il y a les ateliers du bocage, il y a la société Triem qui font partie de cette grand holding qui est en quelque sorte Emmaüs. Et quand les portables sont remis en état, ils vont soit dans les bric-à-brac des 115 communautés Emmaüs de France, soit dans les communautés à l'étranger. Et là, ils sont très appréciés parce que il est très difficile d'avoir une ligne fixe dans de nombreux pays où il n'y a pas les infrastructures et où il n'y a pas les poteaux pour mettre les fils téléphoniques. Donc il y a là un marché qui est important. Et j'ai vu que ces portables ainsi recyclés étaient vendus très bon marché et par conséquent très accessibles.
Alors Jean-Marie, là on va raconter de nouveau une histoire parce que c'est vrai que vous étiez le premier à la raconter, je crois, un petit peu partout dans les médias. Le rapport entre la disparition des grands singes, les portables et les ordinateurs.
Pour l'électronique, il faut des matières premières de qualité, qui ont des caractéristiques, par exemple, de résistivité élevée. Il faut du silicium très pur, il faut un métal qu'on appelle le tantal. Ce métal, on le trouve dans un minerai qui s'appelle le coltan. Mmh. Ce coltan, on le trouve dans quelques pays, pas beaucoup, c'est pas très répandu. On en trouve en tout cas en République démocratique du Congo. On exploite là des mines de coltan. Ce qu'on exploite surtout, c'est les malheureux gens qui travaillent dans ces mines, oui, dans des conditions absolument lamentables, avec un déficit de nourriture et aucune hygiène et énormément d'accidents. Alors ces pauvres diables, ben, ils se nourrissent comme ils peuvent, et ils se nourrissent en particulier de ce qu'on appelle la viande de brousse.
Voilà. Il se trouve que les gorilles sont dans le secteur.
Alors les gorilles sont dans le secteur, il n'en reste plus des gorilles de montagne que 600, c'est très très peu. Quand ils peuvent se choper un gorille, bon, ils mangent le gorille. Quand ils peuvent choper un bonobo ou un chimpanzé, c'est le chimpanzé et le bonobo qui y passent. Quand ils chopent une okapi, qui est un animal proche de la girafe, c'est l'okapi qui y passe. Et donc, malgré le fait que ces animaux soient protégés dans un parc, mais dans ces parcs immenses, qui va garder étroitement le parc? C'est une question ouverte, naturellement. Donc, ça contribue à la perte de ces grandes espèces de singes proches de nous. Il y a 4 grands singes. Il y en a 3 en Afrique qui sont, comme je viens de dire, les gorilles, les chimpanzés et les bonobos. Et puis, il y en a une qui est en Indonésie. Ce sont les orang-outans.
Oui, et là, sur l'île de Bornéo, ça fait mal. Parce
C'est pire.
Oui, c'est ça.
C'est pire.
Et il y a l'huile de palme. Là, c'est encore autre chose.
Oui.
On exploite effectivement l'huile de palme.
Oui.
Donc, on chasse l'animal de son territoire.
Oui. Et puis, il y a la manière brutale des Chinois d'opérer.
Ah oui.
Oui. Toute cette région-là, les forêts sont entre les mains des Chinois qui les exploitent d'une façon assez honteuse quand même, il faut bien le dire, sans aucun souci de régénération, sans aucun souci de respect pour la diversité des arbres. En tout cas, les orang-outans, il en reste 25 000 à peu près, sont eux aussi en situation de plus en plus précaire parce que leur milieu disparaît. Donc on s'aperçoit, quand on fait le bilan, que sur les 4 espèces de grands singes, toutes les quatre sont menacées en même temps, ce qui est extraordinaire. Et on peut imaginer, tout à fait imaginer, que nos petits-fils ne connaîtront plus de grands singes, sinon dans les zoos. Et comme dans les zoos, la reproduction n'est pas toujours évidente, on pourrait imaginer que telle ou telle espèce de grand singe vienne à disparaître.
Donc on est parti de l'abbé Pierre, du chiffon hein, que l'on a recyclé, oui. Puis après effectivement des nouveaux matériaux, des portables, et on arrive à la disparition des grands singes. Voilà, c'est ça.
C'est l'écologie.
C'est l'écologie.
Tout se tient, ouais. Et tout est en relation avec tout. Et quand on fait bouger quelque chose à quelque part, ça fait bouger ailleurs.
C'est la théorie du Mikado.
Oui, c'est tout à fait ça.
Ouais. Merci beaucoup Jean-Marie Pelt, et puis on vous retrouvera d'ailleurs cette histoire dans Sévère et sa marche aux éditions Fayard. Et nous retrouverons Jean-Marie en chair et en os la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Ah, je suis pas sûr, peut-être que je serai que en os. Oui. Il y aura peut-être plus chair. Mes chers amis.
Bon, oui, bah écoutez, prenez votre temps. Voilà. Au revoir Jean-Marie, la semaine prochaine.
Donc. Au revoir.
J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs, la caissière vous noie au passage. Prenez-en celle de bon cœur. De bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer. Cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage. La musique est partout la même, sa terre est juste de passage. Pour flatter votre égo de passage, regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie.
Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
On le connaît, l'air du plastique. C'est la rengaine du quotidien, celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent, ça vous enterre des paniers, c'est là au moins pour 100 ans.
100 ans, 100 ans,
100 ans. 100 ans. Un siècle d'air de plastique, ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien de l'humanité. La mélodie un peu gênante d'un baobab défiguré, drôle de feuilles sur ses branches que la folie du vent fait claquer. Claquer. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie.
Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
Quelle fleur satanique cette terre a vu enfanter. Quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais. Main de l'homme sur le monde redessine les paysages. La musique est partout immonde, cette terre est juste de passage. Pour flatter votre égo de passage.
L'air du plastique pour accueillir un tiers du groupe Trio, parce qu'ils sont quand même six, à savoir Gizmo et Daniel Bravo. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on est ravis parce qu'effectivement vous avez une sensibilité quand même à l'environnement depuis déjà pas mal de temps. Pour vous c'est pas du tout exactement une posture, c'est moins qu'on puisse dire, c'est pas une valeur refuge, c'est pas une tendance. C'est une véritable cause qui conditionne évidemment notre avenir commun. Est-ce que c'est lié Gizmo au fait, je sais pas, que vous avez eu deux enfants, je crois qu'ils ont 3 ans et 8 ans, ou bien c'est parti d'où cette histoire?
Je crois que c'est parti de ma mère. mère, en fait, qui est partie vivre à la campagne. Et moi, je vivais en banlieue, donc j'avais la chance de partir en vacances chez elle. Et une amoureuse du jardin, de la forêt, des cueillettes de champignons, des choses simples. Le plaisir du vent, de la mer, des choses voilà, très simples. Et
de la nature. Que vous n'avez pas justement été coupé du tout de la nature comme beaucoup de personnes, parce qu'elles sont devenues donc urbaines, mais que vous avez toujours vécu dedans et donc vous avez su ce que c'était, je sais pas, un écosystème, le lien entre les éléments.
J'ai eu cette chance-là et puis de voir à la fois le contraste entre ce que peut être une cité HLM de banlieue et la vie à la campagne. Donc mon choix a été très vite fait, même si je respecte tous mes camarades et anciens camarades de banlieue.
Ah oui, bien sûr. Ben oui. Et vous, Daniel, comment ça s'est passé?
Moi, c'est vrai que venant du Chili, où l'écologie est vraiment peut-être la dernière des préoccupations oui. Là-bas.
Que c'est un très gros producteur de mines de cuivre. De cuivre
hein. Oui. Mes grands frères m'ont vachement sensibilisé à ça. Et c'est mes grands frères, quand j'étais tout petit, qui me parlaient de Greenpeace déjà. Il y a très très longtemps.
Oui, parce qu'il faut quand même bien dire aussi que vous avez invité un homme qui connaît très bien cette organisation. Ce n'est jamais que le directeur aussi, quand même, général de Greenpeace. Pascal Lustig, bonjour.
Bonjour.
Alors Pascal, alors rappelez-nous au fait ce qu'est Greenpeace. Je veux dire par là que ça fait 3 millions à peu près d'adhérents aujourd'hui à Greenpeace, plus de 110 000 en France. Quels sont les buts de Greenpeace?
En fait, aujourd'hui, je dirais que le but principal de Greenpeace est de jouer ce rôle d'accélérateur de conscience. Nous sommes aujourd'hui dans une phase critique, dans une phase d'urgence écologique. Et si au cours des 30 dernières années, notre but principal probablement était de faire prendre conscience, aujourd'hui il nous faut des accélérateurs pour passer à l'acte. Mmh. L'acte écologique qui peut être politique, citoyen, un acte de consommation. Et je pense que c'est extrêmement important pour nous d'être tombé sur des gens comme Trio qui, à mon avis, jouent parfaitement à nos côtés ce rôle d'accélérateur de conscience, surtout parce qu'ils sont en contact direct avec un public jeune. En fait, ces gens-là qui seront, si rien n'est fait, les victimes de la crise écologique.
C'est d'autant plus intéressant que, en fait, vous avez un public effectivement qui est jeune et qui est quand même assez souvent dépolitisé. Donc il y a quand même des messages aussi à leur faire passer, Gizmo.
Bien sûr, moi, je crois que le mot politique a pris une dimension incroyable, c'est-à-dire qu'il fait peur. Et à la jeunesse encore plus. Puis c'est vrai que les perspectives aujourd'hui d'avenir, que ce soit écologique ou de social pour la jeunesse, sont pas forcément brillants. Donc ouais. Ils s'en détachent. Et nous, si on peut les ramener à la citoyenneté, à se conscientiser un petit peu et à se projeter dans une présence citoyenne et politique, et notamment au travers d'associations comme Greenpeace, parce que souvent ils viennent sur l'île des campagnes, oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah regarde, il y a un stand là-bas, il y a des antennes régionales, il y a des actions à mener, ils ont besoin aussi de soutien financier, c'est aussi pour ça qu'on est là, pour amener des adhérents à l'association, la faire connaître, parce que son indépendance, l'indépendance Greenpeace est liée à aux dons qu'on peut faire à l'association. Donc pour nous ça paraissait important de pouvoir conscientiser comme ça un petit peu et les amener à des actes.
Justement, on a dit que parfois vous étiez soutenu par des grands lobbies de charbonnage. On a tout lu, effectivement, sur Greenpeace.
C'est nous,
le lobby. c'est vrai, on a vu ça passer. Bon, en fait, ça fonctionne avec des noms, hein, c'est ça, principalement.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc, Greenpeace, au cours des décennies passées, a été financé par le KGB, par la CIA, par BP, par Shell.
Oh, je savais qu'on était bien.
Donc, on a tout, et vraiment tout entendu. Non, Greenpeace est une organisation qui est très décomplexée par rapport à l'argent. Oui. C'est un peu probablement c'est un peu nos racines anglo-saxonnes. Nous sommes une de nos valeurs de base est l'indépendance financière. Nous pensons qu'il est indispensable pour pouvoir avoir cette liberté de parole de ne compter que sur de l'argent de particuliers. Mmh. Donc nous refusons toute subvention de l'État, de l'Union européenne ou d'autres organismes supranationaux, et nous refusons aussi tout don des entreprises. Donc pour nous, si nous existons, c'est parce qu'il y a des millions de gens dans le monde qui nous font confiance, et donc cette indépendance financière est vraiment une valeur essentielle.
Alors, on vous connaît bien sûr pour des opérations coup de poing, donc par rapport au nucléaire, on y reviendra tout à l'heure, par rapport aux OGM, par rapport à la déforestation, et encore, je pense, 150 autres causes que j'oublie là actuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez devenir, effectivement, avec Robert Lyon, qui est devenu président aussi, force de proposition, quelles vont être un peu les orientations futures?
Non, mais je pense que ça fait un moment déjà que Greenpeace a pris conscience que la simple dénonciation ne fonctionne plus. Donc, il y avait le temps de la dénonciation. Aujourd'hui, il faut être force de proposition. Nous avons, je dirais, dans tous nos projets de campagne, nous avons une partie, un volet dénonciation, où on montre clairement du doigt qui sont les responsables, et on ne se prive pas de citer des noms de politiques ou d'entreprises, mais d'un autre côté aussi, nous disons quelle est notre vision de l'avenir. Si je prends notre campagne principale, la lutte contre les changements climatiques, nous avons soumis un scénario de révolution énergétique, donc un scénario qui d'ici 2050 devrait nous permettre de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, clairement, nous sommes une organisation qui a des compétences scientifiques, des compétences politiques pour pouvoir proposer des solutions.
L'urgence écologique aujourd'hui provient directement, on le sait, de nos modes de consommation, de nos modes de production, du marketing, de tous ces gens. Moi, je vous renvoie à un excellent bouquin d'Hervé Kempf qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Il ne s'agit pas de culpabiliser forcément les uns les autres, mais soyons clairs, on est dans ce monde qui est fini, avec des ressources qui sont limitées aujourd'hui, et on tape dans la caisse de manière effrayante, quoi. Alors ça fait peut-être partie aussi des thèmes que vous pouvez, vous, avec le raccourci de la chanson, faire passer, c'est un peu ça?
Je pense que c'est surtout des questionnements aussi qu'on se pose. Hein.
Même si on n'a pas les réponses, bien
voilà,
sûr.
Voilà, nous, à notre échelle, on essaie de faire au mieux. C'est pour ça qu'on fait aussi appel à Greenpeace pour nous éclairer sur ces sujets-là. Et surtout pour apporter des réponses. Je me questionne beaucoup sur la factibilité même de toutes ces énergies renouvelables.
Oui.
Parce qu'il y a plein d'exemples, notamment au Brésil, avec les biocarburants ou des choses comme ça, qui sont d'un côté positif et d'un autre côté très néfaste pour les forêts ou les espèces natives. Et voilà, c'est, pour moi, c'est un vrai questionnement de savoir jusqu'à quel point c'est réellement factible, en fait.
Alors, Daniel Bravo a répondu. Gizmo?
Ouais, ça fait rebondir sur là, on calcule l'effet, la taxe carbone et l'effet carbone, les émissions de CO2 de la tournée de Trio en ce moment, avec nos amis de Greenpeace et donc on questionne le public, savoir comment il se déplace. On s'est rendu compte que d'ailleurs les deux tiers des émissions de carbone venaient du déplacement du public. Donc ça ramène à comment on pourrait faire pour que les gens fassent du covoiturage, pour installer du parc à vélo, pour mettre des transports en commun plus efficaces lors de nos concerts. On s'est rendu compte que chaque personne par soir consommait 7 litres d'eau. Enfin voilà, fallait faire cette étude. Donc on a.
Oui, vous avez fait un vrai bilan carbone de vos tournées.
On est en train de le payer. On est en train de, donc on a fait un bilan carbone aussi de toutes les salles dans lesquelles on est passé. Donc
bien
on
sûr.
Va pouvoir leur redonner à eux aussi un peu le. On va essayer de faire un classement des salles en France.
Énergétivore, le moins.
Donc
le plus,
là, on est en plein dedans et c'est très intéressant et on se rend compte qu'on a plein de choses qu'on peut faire. Les gobelets en plastique dans les salles, enfin plein de petits détails qui font que là on parlait hier avec donc l'équipe Greenpeace qui s'occupe de ça et qui disait voilà, si on met une brique dans chaque toilette, on passe à 3 litres de flotte par personne.
Bien sûr.
Voilà, des petits détails comme ça, et donc c'est très intéressant de faire ça et de se dire qu'en fait effectivement on est tous des gros consommateurs et nous Trio on génère une dépense énergétique incroyable.
Donc, oui, mais c'est vrai que vous y faites quand même assez attention avec les moyens, on va dire, actuels qui nous sont proposés. Mais ce qui est toujours effectivement très très fort dans ce genre de résultats, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que dans le résultat, même si vous n'avez pas terminé votre bilan carbone complet, c'est donc le transport du public qui intervient à peu
c'est
près.
C'est les deux tiers, ouais.
Les deux c'est tiers, les deux tiers, ouais, c'est ça.
Pour le moment, ça correspond à peu près à ça.
Okay.
Et il y a plein de choses à faire. On s'est dit, tiens, mettre sur les billets, les sites de covoiturage, enfin plein de petites choses. Il y a une petite révolution aussi dans le monde du spectacle à faire et on va essayer de bosser là-dessus avec nos amis de Greenpeace.
Alors, cher Gizmo, vous êtes, vous, dans votre maison en Bretagne, vous retapez donc une vieille ferme entre Rennes et Saint-Malo et vous êtes passé au photovoltaïque. Hein.
Je n'y suis pas encore passé, justement.
Vous posez
des questions, j'installe un chauffe-eau solaire, j'ai mis de la géothermie, c'est une grande maison, donc je peux me permettre d'essayer plusieurs, avec les crédits d'impôt, il y en a de partout qui arrivent pour te proposer des super systèmes de chauffage.
Ouais.
très performant et très écolo. Donc voilà, j'ai essayé plusieurs choses et là je m'intéresse au photovoltaïque et j'ai entendu dire que il y avait des gros problèmes encore de recyclage par rapport aux panneaux solaires, tout ça, et je voulais je me posais la question.
Alors nous avons l'homme de la situation, il y en a plusieurs, mais il y en a un vraiment qui sur ce thème depuis une bonne trentaine d'années connaît bien cela, c'est Yves Bruno Sivel. Yves Bruno, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes avec nos amis de, vous avez compris, hein, du groupe Trio avec nous aujourd'hui dans C'est haut de mon amour. Vous êtes le responsable entre autres de cette revue formidable qui s'appelle Système Solaire, le journal des énergies renouvelables. Vous connaissez cela, vous mettez en avant ces énergies renouvelables contre vent et marée, enfin contre vent ou avec vent et marée au contraire.
Avec vent et marée, et oui,
c'est ça. Vous voyez, il faut réviser quand même hein, ce genre d'expression parce que. Et donc la question qu'est en train de vous poser Gizmo sur le photovoltaïque, donc là on parle pas forcément des chauffe-eau thermiques, hein, on parle bien du photovoltaïque, donc autrement dit des panneaux solaires. C'est vrai qu'il y a une question là-dessus, on dit très souvent bah, ces machins-là ça pollue, alors ça consomme beaucoup la fabrication, et puis en aval après il faut les recycler. Alors où en est-on, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui?
D'abord on parle effectivement d'électricité photovoltaïque et non pas de chaleur solaire, donc ce qu'il faut bien comprendre dans l'électricité photovoltaïque aujourd'hui et dans les énergies renouvelables en particulier, c'est que en grandissant les énergies renouvelables, on dit qu'elles allaient être et qu'elles seront à haute qualité environnementale. C'est-à-dire que le temps des pionniers est fini, le temps où on produisait en toute petite quantité se termine et donc les industriels des énergies renouvelables ont le devoir et ont pris en charge le fait de faire du travail haute qualité environnementale. Mmh. Donc ça, c'est général. Sur le photovoltaïque, je rappelle qu'il y a une grande tradition de recyclage parce que jusqu'à présent, tout le photovoltaïque était déjà fabriqué à partir des barreaux de silicium de l'industrie électronique. Donc les capteurs solaires photovoltaïques étaient déjà des déchets de l'industrie électronique. Simplement pour vous dire que bon, la tradition, la culture du recyclage est acquise dans ce milieu-là.
Donc, est-ce que ça fait partie, Yves Bruno, de ce qu'on appelle les D3E, c'est-à-dire les déchets électriques et électroniques?
Alors, ça fait partie de la directive européenne relative aux déchets des équipements électriques.
Oui.
En tout cas, ça va en faire partie. Donc, l'Europe a considéré que cette industrie était encore toute petite et qu'elle devait s'occuper d'industries plus majeures. Mais il est très très clair que l'année prochaine, ou probablement, les déchets de l'industrie de l'électricité photovoltaïque vont relever de cette directive. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les industriels européens ont anticipé cette affaire depuis 2005. Ils ont créé PV Cycle, hein, PV Cycle.
Oui,
PV. Et donc ils ont pris le taureau par les cornes et puis ils se sont donné l'objectif de recycler 85% de leurs produits à l'horizon 2015.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que, enfin bon, on n'en est pas encore là parce que la durée de vie, on va dire, c'est quoi? C'est 20-30 ans. Hein.
Alors voilà, la durée de vie étant longue, la montée en charge des déchets va être longue aussi.
Oui.
Hein, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a peu de photovoltaïque et comme ça vit entre 20 à 25 ans, là, on vient de démonter la centrale de Pellworm qui avait 23 ans en Allemagne. Bah, précisément, les cellules qui étaient en bon état ont été recyclées dans de nouveaux modules. Mais en tout état de cause, la montée en puissance va plutôt avoir lieu dans 20 ans maintenant. Et comme le milieu se met d'ores et déjà en ordre pour recycler, on peut être relativement confiant sur le fait que l'industrie de la cellule et du module sera parfaitement recyclée.
Yves Bruno Sivel, est-ce qu'on va être davantage dans une énergie, on va dire, décentralisée qui va permettre aux particuliers, dans les maisons, dans les petits immeubles d'habitation, dans des petites entreprises, de pouvoir fonctionner? Ou bien est-ce qu'on aura, on va dire, de grosses solutions d'ingénieurs sur des grands sites en matière d'énergie renouvelable? Ou bien est-ce que ce sera un mix des deux? Qu'est-ce que vous sentez?
C'est très intéressant et puis c'est les vrais enjeux. Alors d'abord, on peut dire que ça va être de l'énergie régionalisée et que les régions vont apprendre la compétence pour exploiter les grands trésors énergie renouvelable qu'elles ont dans leur territoire. Je pense que dans une courbe d'apprentissage qui va permettre à ce produit industriel d'arriver à sa taille critique économique, on va avoir quelques centrales au sol. Mais moi, je dis très très clairement que l'enjeu de société dans une planète où on mesure l'empreinte écologique en hectares, le meilleur hectare photovoltaïque, c'est un hectare de toiture déjà construit. Donc les photopiles, l'énergie électrique photovoltaïque sera sur les toits et les façades et en grande quantité. Donc le paradoxe là, c'est qu'on est effectivement pas dans l'autonomie, la petite maison tout seul au fond de la forêt, mais on est dans un système de petites centrales solidaires et interconnectées.
Pascal Hostig, donc de Greenpeace, peut-être aussi une petite réaction par rapport aux énergies renouvelables.
Oui, je pense que tout a été dit dans la mesure où aujourd'hui, quand on parle des modèles énergétiques du futur, des modèles de la production énergétique du futur, on parle de modèles décentralisés. Aujourd'hui, il faut absolument rapprocher la production et la consommation. On n'est plus à l'époque soviétique où on pensait pouvoir mettre des centrales énormes à certains endroits et ensuite on distribue. Ça, c'est clairement le monde d'aujourd'hui, ou surtout le monde demain sera un monde léger avec de la décentralisation et avec une responsabilisation. Et c'est seulement en rapprochant la production, la consommation, qu'on va savoir responsabiliser les consommateurs.
Alors, est-ce qu'en tant que consommateur, là aussi, et citoyen Gizmo, donc ça vous rassure tout ça, donc vous allez pouvoir dire, ok, cette
filière... Moi, je vais y aller un peu plus détendu, ouais.
Voilà.
Ouais, c'est sûr.
Hein, voyez, votre intervention était utile, Bruno.
Ouais, merci.
Eh bien, écoutez, en tout cas, croyez bien que la revue Système Solaire sera aussi le poil à gratter de l'industrie, si jamais elle ne devait pas le faire. Mais bon, pour bien les connaître, c'est encore une industrie qui a été montée par des pionniers et j'ai confiance.
Et moi, je peux vous renvoyer donc à ce numéro spécial de Système Solaire, donc le journal des énergies renouvelables, qui a été consacré au 11e concours Habitat Solaire, Habitat d'aujourd'hui. Et donc, vous avez aussi sous la houlette de Françoise-Hélène Jourda, qui est une architecte qui connaît très bien les notions de développement durable, bien vous avez une vingtaine de prix, donc une vingtaine d'exemples qui sont dans cette revue et ça vous donnera envie.
Hein. Ah, les grandes tendances de ce concours, c'est les maisons en bois qui fixent le carbone, et les maisons avec des toits qui vont capter le solaire thermique ou le solaire photovoltaïque, et on est en route vers les maisons à énergie positive, c'est-à-dire celles qui produiront plus d'énergie qu'elles n'en consomment.
Voilà, à bas la pensée unique et à bas l'énergie unique. Merci cher Yves Bruno et à très bientôt.
À bientôt.
Si le monde était à refaire, je le ferais au Nord Niger. Je troquerai mon bout de mer pour le silence du désert. Et mon frère, alors je deviendrai Ishumar, un vrai Touareg qui se dirige même dans le noir.
Si le monde était à refaire, je le referais avec toi. Toi mon ami, toi mon frère, le vieux guerrier Abdallah. Je me mettrais à tes côtés, une guitare au bout des doigts. Mis en silence, mis énervé, je chanterai la liberté.
Si je devais changer ma vie, elle se transformerait en lutte. Et cette nouvelle vie, mon ami, je la ferais bien dans ta hutte. Que tes mots soient écoutés et qu'un nouveau règne arrive.
Que les Touaregs et leur fierté ne finissent pas à la dérive. Abdallah, de l'Algérie au Niger, Abdallah porte la voix du désert. Abdallah, ton monde de sable est sans frontières. Ne lâche pas.
Si le monde était à refaire, je le ferais sans uranium. Lui qui enclave ta terre et qui chasse tous les hommes. Lui que vient faire le nucléaire dans la région de l'Aïr, à part chasser les dromadaires
et laisser ton peuple mourir.
Si le monde était à refaire, je le ferais sans colonie. Elles qui ont créé vos frontières et mis les ethnies en conflit. Le désert n'a pas de limite pour tous les gens qui y habitent. Et la misère qui va trop vite
tue tous les Touaregs et leurs rites. Abdallah, 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 ne lâche pas.
Ton langage, il te reste pour l'exprimer. Le blues, ta guitare et ta rage.
Même si la menace est grande, qu'il te couperait bien la langue. Faut que tu chantes, faut qu'on t'entende. Les Touaregs ne sont pas à vendre.
Abdallah, de l'Algérie au Niger. Abdallah, porte la voix du désert. Abdallah, ton monde de sable est sans frontières.
Ne lâche pas, Abdallah.
frontière, ne lâche pas.
Extrait de l'album « Ce que l'on sème » du groupe Trio Abdallah, chanson écrite par Gizmo. Et évidemment que cette chanson donc tombe très bien parce qu'il y avait un autre thème qui vous intéressait donc pour CO2 Mon Amour cet après-midi. Quel est ce thème ?
C'était évaluer un petit peu les dangers que pouvait représenter l'extraction de l'uranium, parce qu'on parle souvent du recyclage. Au passage de l'uranium dans nos centrales.
On en parle en aval.
On en parle, mais ouais. Moi je suis parti au nord Niger rencontrer Abdallah. Donc il habite dans une région entre Agadez et Arlit, et notamment vers Arlit, où Areva exploite l'uranium apparemment à ciel ouvert et sans beaucoup de précautions. Je crois qu'il y a eu des rapports assez alarmants d'ailleurs sur la ville d'Arlit. Et beaucoup d'amis d'Abdallah sont tombés malades un peu bizarrement. Et donc pour lui, pour tous ces gens qui peuplent le désert et cette région, essayer d'en savoir un peu plus de comment on exploite l'uranium de manière intelligente et non polluante. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas là-bas.
Alors, donc, on est à peu près à 250 km au nord d'Agadez. Et donc, Areva, à travers donc deux filiales qui s'appellent la Someir et la Communicac, donc, exploite cet uranium. C'est vrai qu'on en profite tout à fait largement. Mais, comme vous l'avez très bien dit, il y a un amont et l'aval. L'aval, on le connaît. Donc, ce sont les déchets et aussi le démantèlement, démantèlement des centrales. Et en amont, il y a donc l'extraction. Alors, pour nous en parler, Bruno Chareron est ingénieur en physique nucléaire et responsable du laboratoire de la CRIRAD, c'est-à-dire la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Bruno Chareron, bonjour.
Bonjour.
On est ravi de vous avoir au téléphone. Et donc, vous avez compris, c'est une interrogation donc, de Gizmo, donc, du groupe Trio. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les conditions donc, d'extraction de l'uranium, parce que vous avez quand même été, vous, sur place. Je rappelle simplement qu'il y a un trio de têtes des pays exportateurs. Il y a le Canada, il y a l'Australie, le Kazakhstan. En France, on a eu d'ailleurs aussi 170 sites. Bon, mais qui n'était pas assez rentable. Et puis, donc, il y a évidemment le Niger. Au Niger, que se passe-t-il ?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'extraction de l'uranium est vraiment une étape très polluante dans l'industrie nucléaire, quels que soient les pays. On le voit très bien déjà en France, puisque chaque fois qu'on fait des contrôles autour de mines d'uranium en France, on découvre des pollutions, la dispersion de remblais radioactifs, la pollution des cours d'eau, etc. Pour ce qui concerne le Niger, on a été frappé dans le cadre de la mission qu'on a organisée en décembre 2003 avec une ONG locale qui s'appelle Agilinman, frappée de constater un certain nombre de choses. La première, c'est la présence de ferraille contaminée par l'uranium et le radium en vente sur les marchés d'Arlit. La deuxième, c'est le fait que l'extraction de l'uranium produit des millions de tonnes de résidus radioactifs qui sont à Arlit et à Kokan entreposés à l'air libre. Autrement dit, les vents puissants du désert peuvent disperser le gaz radioactif qui en émane, le radon et les poussières radioactives. On a pu constater que les bouches de ventilation des galeries souterraines des mines dégagent dans l'atmosphère des quantités très importantes de radon et que d'ailleurs certains groupes de population de la ville d'Akokan reçoivent des doses qui dépassent les limites sanitaires. On a pu constater aussi, par exemple, malheureusement, la pollution des nappes souterraines. Vous savez qu'on est en plein désert, donc pour faire fonctionner les usines, mais aussi pour fournir de l'eau potable aux populations, les exploitants utilisent une nappe qui est fossile. Oui. Donc ils épuisent cette nappe et en plus, il y a une contamination de ces eaux par l'uranium et par le radium.
Et en même temps, on va pouvoir se dire aussi que les filiales d'Areva sont pas forcément des gens non plus que cyniques, qui travaillent mal. Donc est-ce qu'il y a eu une évolution de ce côté-là ou
Je dirais que la pression qu'on a mis avec cette ONG locale à Gelinman et par voie ensuite médiatique en France et en Europe a, semble-t-il, permis quelques petits progrès. Il semble que les puits les plus contaminés ont été fermés. Il semble qu'il y a eu des campagnes de récupération des ferrailles dans les rues de la ville. Mais les questions de fond ne sont pas résolues, c'est-à-dire la question du stockage à long terme des dizaines de millions de tonnes de résidus radioactifs qui sont aujourd'hui à l'air libre, comment les confiner pendant des milliers d'années, comment protéger les ressources en eau souterraine qui sont en partie contaminées, comment garantir dans les décennies qui viennent les soins à la population et aux travailleurs, parce qu'on l'a vu sur d'autres pays, je pense au Gabon, une fois que l'exploitation est finie, les populations qui peuvent souffrir d'un certain nombre de pathologies ne sont plus soignées gratuitement, comme c'est par exemple à peu près le cas aujourd'hui à Arlit.
Est-ce qu'aujourd'hui les Touaregs sont considérés comme des gêneurs ?
Par qui, vous voulez dire ?
Bah, sur le terrain, parce qu'évidemment, on le rappelle, le Niger est un des pays les plus pauvres d'Afrique, donc on comprend aussi qu'ils aient besoin d'avoir un minimum, on va dire, de développement, et donc ces gens-là sont sur leur territoire. Donc on sait très bien qu'il y a aussi donc, sur place des guérillas, qu'il y a des luttes, etc.
Bah, disons, c'est extrêmement important que la société civile, en général, dans ces territoires, prenne conscience des risques qu'il y a à exploiter l'uranium et puisse faire pression sur les autorités, sur les décideurs, sur les industriels pour que cet uranium soit exploité dans des conditions les moins pires, disons. Donc ça, c'est vraiment une revendication légitime de ces populations, d'autant plus qu'il y a là-bas un problème de droit au sol, c'est-à-dire que les Touaregs ne sont pas les propriétaires du sol et donc les compagnies minières peuvent exploiter les réserves à condition d'avoir l'accord du gouvernement.
Pascal Hosting, donc directeur général de Greenpeace sur ce thème.
Oui. Ben, je pense que c'est un vrai problème démocratique. Étant donné que les mines, on sait très bien que les mines Areva au Niger, c'est un État dans l'État. Tout comme d'ailleurs ce qui se passe au Kazakhstan. Et que ça montre encore une fois que le nucléaire n'est pas une forme d'énergie démocratique. On le voit par rapport à l'intransparence de toute la filière nucléaire en France. On le voit par rapport au manque de communication sur ce qui se passe réellement à Tricastin. Donc clairement, c'est pour moi un des éléments qui me fait dire que l'industrie nucléaire n'est pas démocratique. Mais on voit aussi que tout ce qu'on nous raconte, que le nucléaire est source d'indépendance énergétique pour la France, que ça tient pas la route dans la mesure où il n'y a pas d'uranium en France. L'uranium, il est exploité dans des conditions catastrophiques et scandaleuses au Niger, au Kazakhstan, dans des conditions énergétique, scandaleuse. Donc encore une fois, on voit très bien que que le nucléaire, tout simplement, c'est une énergie du passé, du XXe siècle, et qu'on n'arrivera pas à résoudre le grand défi énergétique du XXIe siècle avec une technologie qui est somme toute crépusculaire.
Et qui passera de toute façon par de la sobriété, qu'on le veuille ou non. Uranium, on dit à peu près, évolution des stocks, 70 ans, on va dire, de réserve, à condition de rester sur le même tempo et non pas forcément d'augmenter le nucléaire dans le monde. Mais c'est à peu près ce qui se dit, d'après les scientifiques. Quoi. On est 70 ans de réserve. Quoi.
Oui, tout à fait. Et surtout si on parle aujourd'hui, si Mme Lauvergeon d'Areva nous propose nucléaire comme la solution contre les changements climatiques, si pour seulement maintenir la quote-part du nucléaire dans l'énergie finale consommée dans le monde au taux actuel, il faudra lancer d'ici 2030, toutes les semaines, une demi-tranche nucléaire. Et si on connaît, l'état des gros chantiers, que ce soit le premier EPR en Finlande ou l'EPR à Flamanville, on sait que on nous raconte un peu n'importe quoi.
Alors ce que dit Mme Lauvergeon, c'est qu'effectivement le nucléaire est une des solutions, on ne dit pas que c'est la solution des énergies, parce que monsieur l'a quand même très très bien compris le positionnement et puis aussi l'avenir des énergies renouvelables. Bruno Charéron, à la CRIRAD, qu'est-ce que l'on fait exactement?
Donc la CRIRAD est une association de loi 1901 qui a été créée après la catastrophe de Tchernobyl, puisque vous savez qu'à l'époque, l'État français nous a fait croire qu'il n'y avait aucune contamination en France. Mmh. Et donc, depuis cette époque, ce laboratoire indépendant fait des contrôles de radioactivité pour essayer d'améliorer l'information et la protection des populations par rapport aux risques liés à la radioactivité, que ce soit le nucléaire, de la mine d'uranium jusqu'aux centrales en passant par le transport et la gestion des déchets, ou l'utilisation médicale des radioéléments, ou encore le radon dans l'habitat.
والله لا أرت سنين تكمي واندغ من ترهين
والله لا أرت سنين تكمي واندغ من ترهين
إيجاديكو التقيم
إيجاديكو التقيم
تفلم داتا أواديجا
تفلم داتا أواديجا
Thank you.
Quelques accords de Tinariwen, donc des Touaregs du nord du Mali, et c'est vrai qu'ils sont nés aussi face à une situation d'exil et d'errance de leur peuple. Pascal Hosting, donc on va poursuivre notre voyage, entre guillemets, donc avec vous. Quels sont les incontournables, je dirais, écologiques avec vous?
Je pense que la première priorité, c'est le réchauffement climatique, parce que c'est un combat structurant.
Et mondial, et
surtout c'est le grand combat qui va lier les questions sociales, les questions économiques et les questions environnementales. Et clairement, si nous n'arrivons pas à rester en deçà de 2 degrés d'augmentation moyenne des températures, on aura beaucoup de mal parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Au nord, dans les pays industrialisés, probablement on pourra trouver quelques moyens de s'adapter. Mais dans les pays du Sud, on comptera les victimes par millions. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le grand défi du 21e siècle.
Et la diversité du vivant aussi, ce qui nous amène évidemment à la faim dans le monde, ce qui nous amène aussi à l'eau, etc. Et donc à ce qu'on appelle la biodiversité, quoi.
Tout à fait. Mais c'est étroitement lié. On voit aujourd'hui déjà des écosystèmes marins, notamment, qui sont complètement dérégulés par le fait qu'il y a augmentation de la température des eaux. Donc ce sont des phénomènes qui sont étroitement liés. La biodiversité, Jean-Marie Pelt en avait parlé, c'est un sujet majeur dans la mesure où il ne s'agit pas de conserver, il s'agit surtout de donner des chances de survie aux millions, dizaines de millions de gens qui vivent dans la forêt et de la forêt. Donc c'est un sujet qui va largement au-delà de la seule préservation des espèces, même si c'est, bon, je pense, oui, pour moi en tout cas, c'est extrêmement important de sauver les derniers bonobos, les derniers gorilles, parce que ce sont nos cousins les plus proches, et donc à moins d'être dans un cynisme absolu, je pense qu'il faut absolument protéger ces espèces-là. Mais il s'agit, bien sûr, le combat écologiste est avant tout un combat pour l'homme, et c'est dans ce sens-là, je pense, qu'il y a tout à réinventer, notamment avec des gens comme Trio, qui nous donne une touche artistique qui est absolument indispensable pour donner envie aux gens.
Bien, merci à vous, Pascal Hosting. Merci à vous, donc, à Daniel Bravo et à Gizmo. Et puis, vous allez rejoindre vos petits camarades ce soir, en ce jour de Saint-Nicolas, parce que vous allez jouer à Brest. Vous serez le 9 décembre à Paris au Cabaret Sauvage. Tiens, on va venir vous voir, là. Welcome. Le 10 décembre, vous serez à Rodez, dans l'Aveyron. Vous serez le 11 décembre, là où il y a le siège de la CRIRAD, à Valence. Et le 12 décembre, vous serez au Canet. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux?
Ben, que la tournée se termine bien et qu'on chope plein d'adhérents chez Greenpeace pendant les concerts, et voilà, et que le combat continue. Voilà.
Merci à vous.
Merci à vous.
La semaine prochaine, ce sera Alain Bougrain-Dubourg pour un ouvrage qui s'appelle Salbette et Marie Rouanet, auteur de son état Mauvaise nouvelle de la chair, qui nous parleront de la condition animale. Autre sujet tout à fait intéressant et bien polémique, donc ils seront là en direct dans cette émission. Puis il y aura aussi un petit reportage où on ira sûrement dans les Pyrénées, je ne sais plus ce qu'on a préparé. Enfin, il y aura un reportage animalier, voilà. Merci à Claudine Laperson, à Dimitri Grenoff, à Sophie Ledoré, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza et à Maïté Adam qui réalisait cette émission.